soir, Dialogue entre Congolais se penche sur la situation en République centrafricaine. Vous le savez, le président et le premier ministre ont démissionné vendredi dernier sous la pression des chefs d'État d'Afrique centrale. Cette décision a été prise lors du dernier sommet de la communauté économique des États d'Afrique centrale à N'Djamena au Tchad. Michel Djototia et Nicolas Tiangai sont accusés de passivité face à la situation sécuritaire qui prévaut en Centrafrique. Quelle analyse faire de la décision des chefs d'État d'Afrique centrale? C'est le thème que vous propose Dialogue entre Congolais ce soir. Nous recevons comme invité Samuel Monga, analyste en questions internationales. Il s'intéresse aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Bonsoir Samuel Monga.
Bonsoir Monsieur Roux.
Professeur Moïla Tchiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Bonsoir professeur Moïla.
Oui, bonsoir Alain.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Erung et bonsoir aux auditeurs et auditrices.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La démission du président centrafricain Michel Djotodia et celle de son premier ministre Nicolas Tiangai ont été annoncées le vendredi 10 janvier 2014 dernier. Cet événement a mis fin au sommet de la communauté économique des États d'Afrique centrale consacré à la Centrafrique, sommet qui s'est tenu à N'Djamena au Tchad. Kéline Kouté pour les détails.
La démission du président centrafricain Michel Djotodia a été annoncée vendredi 10 janvier 2014 en fin de matinée, tout comme celle de son premier ministre Nicolas Tiangai. Un événement qui a mis fin au sommet de la CEAC à N'Djamena, consacré à la Centrafrique. Le président centrafricain Michel Djotodia, accusé par la communauté internationale de passivité face aux violences interreligieuses dans son pays, a démissionné à N'Djamena sous la pression des dirigeants d'Afrique centrale qui l'y avaient convoqué pour un sommet extraordinaire. Il faut dire que ce sommet s'était ouvert sur un discours virulent du président tchadien Idriss Déby, réclamant que les répressions exercées sur les civils, les exécutions sommaires, la haine contre les étrangers cessent en Centrafrique. Mais déjà le président tchadien indiquait, je cite, « Toute solution au problème centrafricain ne peut provenir que des Centrafricains eux-mêmes ». Fin des citations. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC en sigle, réunis au sommet depuis jeudi dernier à l'initiative du chef d'État tchadien Idriss Déby, ont pris acte de la démission du président et du premier ministre centrafricain selon le communiqué final lu en séance plénière. La constitution provisoire centrafricaine stipule que le président du Conseil national de transition, CNT en sigle, assure l'intérim de 15 jours maximum, le temps d'organiser l'élection d'un nouveau président par le Conseil. Le nouveau président de transition exercera ses fonctions jusqu'aux élections générales dont la date n'est pas encore arrêtée. Depuis le renversement en mars 2013 du président François Bozizé, par une coalition hétéroclite à dominance musulmane, la SELECA, dirigée par Michel Djotodia, la Centrafrique a été emportée dans une spirale de violences communautaires et interreligieuses sous le regard impuissant des institutions de transition.
Merci Kéline Kouté. Professeur Moïla Tchiembe, vous êtes directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur, le président Michel Djotodia et son premier ministre Nicolas Tiangai ont démissionné sous la pression des chefs d'État d'Afrique centrale. Comment vous analysez cette décision?
Il faut dire qu'ils n'ont pas démissionné, ils ont été démissionnés. Ils ont été démissionnés au nom du principe de selon lequel la raison du plus fort est toujours la meilleure. Pourquoi? Parce que depuis que cette république centrafricaine, qui, comme vous le savez, est l'un des éléments des malheurs de ce qu'on peut appeler le degré zéro de la politique en Afrique en général, mais en Afrique centrale en particulier, ce pays est depuis l'indépendance dans une situation de non-État quasiment, de Bokassa jusqu'à Dotodia, en passant par Ange Patassé, Bozizé, Kolingba, et que sais-je encore, ce pays n'a jamais été un État. malgré les infortunes diverses, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette démission? Ben évidemment, lorsque Bozizé est arrivé au pouvoir avec le soutien du Tchad, il faut le rappeler les choses ainsi, Bozizé avait pris les armes avec le Tchad pour chasser Ange Patassé. Aujourd'hui, les pays de l'Afrique centrale s'étant réunis d'abord à Libreville et ensuite au Tchad pour constater qu'ils n'avaient plus cœur à l'ouvrage pour soutenir Bozizé. Ils ont lâché Bozizé au profit de Doteja. Et lorsque Doteja a pris le pouvoir avec Tiang Ai, on se rend bien compte que ce tandem n'a eu aucune fonctionnalité. D'abord, les deux ne s'entendaient pas. Et finalement, ce pourquoi ils avaient pris le pouvoir, c'est-à-dire créer les conditions de la sécurité dans le pays, préparer la transition jusqu'aux élections qui permettraient d'avoir un nouveau gouvernement, n'a pas été réalisé. L'affrontement entre les groupes a fait que on a failli, effectivement, arriver à ce qu'on appelait le prélude du génocide, comme ce qu'on a connu au Rwanda. Et n'eût été l'intervention de la France sous la résolution du Conseil de sécurité, on ne sait pas dans quelle situation serait la République centrafricaine aujourd'hui. Donc, ce sont et le Tchad qui avait permis l'arrivée au pouvoir de Doteja et la France qui a appelé à la rescousse pour éviter le génocide, qui, voyant que ce duo n'aboutissait pas au résultat escompté, a carrément décidé de le chasser. Bien sûr, il fallait mettre un peu du bémol, prendre cela sur le dos de la communauté de l'Afrique centrale, mais il faut bien avouer que le reste des pays de la région n'ont pas pu peser sur l'affaire au regard de la détermination du Tchad et de la France.
Professeur, vous dites que la République centrafricaine a depuis son indépendance été dans une situation de non-État. On sait quand même qu'il y a des pays africains qui ont connu la colonisation, qui sont devenus indépendants et qui ont quand même pu s'émanciper. Et dans le cas de la Centrafrique, comment vous expliquez cette situation?
Mais il y a la question du défilement ou l'abandon des élites. Si vous regardez bien tous les pays de l'Afrique centrale, même les pays qui ont les moyens substantiellement par leur qualité ou leur capacité démographique ou leurs ressources, comme votre pays, la République démocratique du Congo, ou le Congo d'en face, le Congo-Brazzaville, si vous voyez le Cameroun, quel autre pays, la Guinée équatoriale avec le pétrole, le Gabon avec le pétrole, vous faites le tour, le Tchad. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que Kalinka, même si il y a eu une certaine autorité qui s'est installée au Tchad à la suite de plusieurs rébellions, le Cameroun, depuis le départ du président Ahidjo et l'arrivée depuis les années 80 du président Biya, et on est toujours au statu quo ante. Et si vous tournez le regard ailleurs, en dehors de guerres qui bouleversent votre pays depuis bientôt une quinzaine d'années, on n'a pas un seul pays de l'Afrique centrale où on peut dire que l'État existe, qu'il a la capacité de pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens, de gérer les ressources et les territoires et les populations, et de voir l'avenir, de penser le futur. Donc on est toujours à la caisse de départ, le serpent se meurt la queue dans l'un ou l'autre des pays, même si toutes choses étant égales par ailleurs, il y a des pays qui s'étirent plus ou moins bien, comme le Cameroun, une certaine stabilité, ou la Guinée équatoriale, un peu de pétrole, ou le Gabon, après Papa Bongo, ou la République du Congo d'en face après les guerres internes. Donc tout ceci laisse... on a vraiment à voir à quelque chose. Et ces élites de ces pays, bien sûr, la colonisation l'a condamnée, la traite négrière, mais si vous regardez bien, en dehors des pères fondateurs, ceux qui ont disparu, comme Lumumba, Kassavubu, Youlou et Ahidjo et bien d'autres gens, la génération des universitaires qui sont arrivés n'ont pas changé la donne. C'est ça le malheur, non seulement de l'Afrique en général, mais de l'Afrique centrale. Ces élites ont failli à leur mission principale, mais vous regardez cet homme de Togia, comme d'ailleurs à l'époque, Laurent Désiré Kabila a eu ces mots tout à fait extraordinaires en traitant la fidèle de conglomérat d'aventuriers. C'est exactement l'image de Séléka en Centrafrique. Et ça, on peut voir pays par pays qu'on n'a pas tout quitter les PITAC non plus. On est quasiment au point de départ, même en recul par rapport aux années 60.
Merci professeur Moïla Tchiembe. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Professeur, vous venez de suivre l'analyse du professeur Moïla Tchiembe. Quelle est la vôtre?
Je voudrais d'abord saluer mes collègues avec qui je partage le micro ce soir. Et je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Tiembe quand il relève au fait l'état dans lequel se trouve la Centrafrique depuis l'indépendance. Il est un fait que c'est un pays qui a été forgé de toutes parts et qui a été créé de toutes pièces, comme on le sait quand on relit les livres d'histoire. Mais le fait est là, il y a un pays qui s'appelle la Centrafrique qui est là, qui a une population, qui repose sur une série d'ethnies et qui doit essayer par tous les moyens de sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Et la situation dans laquelle elle se trouve, vous pouvez la comparer avec d'autres pays, comme l'a dit notre collègue, avec par exemple la RDC, il fut tout un temps, et avec d'autres pays qui ont traversé aussi ce genre de conflit. Et le pire de la Centrafrique, c'est que ce sont des conflits, en fait, qui ne datent pas d'aujourd'hui. C'est des conflits qui datent de plusieurs années, voire depuis que l'État centrafricain est indépendant. Et si vous regardez, par exemple, le nombre de groupes armés qui sont actifs dans ce pays, c'est tout à fait effarant. C'est vrai que pour l'instant, on est en train de pouvoir se focaliser sur deux groupes, c'est-à-dire la SELECA et les Anti-Balaka. Mais derrière ces deux pseudo concept, groupement politico-militaire, il y a toute une série de groupes armés et qui sont composés essentiellement sur base ethnique et locale, et la dimension religieuse n'est revenue que beaucoup plus tard, et malheureusement, lorsque la dimension fait référence à la dimension religieuse, on tombe dans une analyse, on va dire, simpliste, où on essaye malheureusement, on essaye de simplifier l'analyse en disant qu'il s'agit d'une guerre entre les musulmans et les chrétiens. Mais ça, c'est une lecture facile et simple qui arrange bien les médias, mais dans le fond, ce n'est pas du tout ça. Au fait, il s'agit tout simplement d'un pays qui n'a pas de droit, qui n'a pas d'autorité. Et lorsqu'il n'y a pas d'autorité, ce qui se passe, que chacun qui a un petit peu d'armes, qui a un petit peu de légitimité dans son contrée, dans sa commune, dans son territoire, ou bien dans sa chefferie, prend le pouvoir et assume le pouvoir. Vous avez, en Centrafrique, par exemple, le Nord n'est certainement pas dirigé par la SELECA. Le Nord est dirigé par un groupe qui s'appelle UFDR, qui est un groupe rebelle qui occupe le Nord depuis pas mal d'années. Vous avez l'APR aussi, qui est composé des anciens des passés, qui occupe aussi une partie du territoire, etc., etc. Et donc il y a toute une floraison de groupes armés et qui sont sur place et qui chacun a une base ethnique et essaye de survivre parce qu'il n'y a pas, comme l'a dit notre collègue Tiembe, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'autorité. Alors chacun essaye d'avoir son autorité.
Professeur, c'est vrai que la RCA a été pratiquement au bord du génocide, donc en d'autres termes, le coup d'État de Michel Djotodia, qui a passé près de 10 mois à la tête de ce pays, n'aura servi à rien.
En fait, il faut bien comprendre, il faut bien se résoudre au fait que la Centrafrique, surtout les autorités politiques centrafricaines, sont des autorités qui sont sous tutelle. Sous tutelle de qui? Essentiellement sous tutelle du Tchad depuis quand même plusieurs années. Et quand je dis du Tchad, c'est beaucoup plus par rapport au régime d'Idriss, et qui exerce une espèce de droit de tutelle sur ces différentes autorités. Et le conflit, si on peut le dire, commence déjà avec Bozizé sur le fait j'espère qu'on pourra en parler peut-être plus tard, que l'une des raisons qu'on oublie de mentionner dans le déclenchement du coup d'État de Jotodia, contre Bossizé, mais il y a ce coup d'État à l'origine, parce qu'il y a une odeur de pétrole là-dessus. Et cette odeur de pétrole a fait que ben, les Tchad, voyant que ce potentiel intérêt lié au Tchad, au Tchad et au Centrafrique pourrait être menacé par une influence sud-africaine, et Idriss Déby, de manière très claire, a décidé de changer son fusil d'épaule et de lâcher Bossizé et de lancer Michel Djotodia pour pouvoir arriver à sauvegarder ses intérêts. Malheureusement, dans cette stratégie, ces changements n'a fait qu'accentuer, en fait, le conflit qui était déjà latent depuis plusieurs années, comme je vous l'ai dit, n'a fait que accentuer beaucoup plus la déliquescence de cet État qu'on appelle la Centrafricaine.
Professeur, le professeur Moïla Tchiembe a relevé tout à l'heure également l'échec du tandem Djotodia-Tsiangaï. Comment est-ce que la communauté internationale pouvait proposer deux personnalités pratiquement au profil opposé qui ne s'entendaient pas à la tête d'un pays?
En fait, cette proposition revient souvent au niveau international après l'expérience de la RDC. Surtout après l'expérience de la RDC, 1+4, si vous vous souvenez, après les accords de Sun City. Ce modèle, tel qu'il a été expérimenté à RDC, a été vu comme un modèle qui peut être exporté dans d'autres pays. Mais seulement une expérience dans un pays n'est pas valable dans un autre pays. Et donc, si ça a réussi au Congo d'avoir un président et 4 vice-présidents, chose qu'on n'a jamais vue au monde, et avec des antagonismes que l'on connaît, par exemple, antagonismes qu'il y avait entre les 4 vice-présidents qui étaient des antagonismes assez très 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 fortes, a fait en sorte que ça n'a pas explosé. Pourquoi ça n'a pas explosé? Parce que vous aviez au-dessus de ces différents antagonismes de 1+4, vous aviez ce qu'on appelle une espèce d'épée de Damoclès qui était composée par le SIAT. Mais ici, au niveau de la Centrafrique, ils ont mis, en fait, là, ils ont appliqué la même recette que l'on a appliquée à RDC pour arriver à calmer les différents protagonismes au conflit. Mais malheureusement, il n'y avait pas une espèce de tutelle instituée qui permettait de pouvoir aider à l'accompagnement de ces deux personnalités.
Merci, professeur Bob Kabamba. Je vous redonne également la parole dans le prochain tour de table. Samuel Monga, vous êtes analyste en questions internationales. Vous vous intéressez aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Vous venez de suivre les analyses des professeurs Moïla Tchiembe et Bob Kabamba. Quelle lecture vous faites de cette situation du moment que d'autres observateurs pensent qu'en 10 mois d'exercice du pouvoir, Michel Djotodia n'aura pas réussi à convaincre sur le plan militaire? Il a échoué à mettre au pas les combattants de la Seleka, cette armée hétéroclite responsable de graves violations de droits de l'homme. Jamais une chaîne de commandement digne de ce nom n'a pu émerger. Quant au désarmement des combattants qu'il avait ordonné, il est resté largement une vue de l'esprit. Quelle est votre analyse?
Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Permettez-moi de présenter mes vœux les meilleurs à tous les auditeurs de Radio Okapi, que je sais nombreux. J'en profite aussi pour les présenter aux deux éminents professeurs dont j'ai suivi les interventions. Et que dire de particulier après des analyses aussi édifiantes? Cela étant, permettez-moi peut-être de jeter la lumière, ça peut paraître anachronique, un peu sur le personnage de Michel Djotodia. On a affaire à un chef rebelle qui a pour mission d'amener un groupe manifestement hétéroclite à la conquête du pouvoir. Et on se rend compte que sa difficulté à fédérer ce groupe, conjugué sans doute à l'héritage centrafricain lourd, puisque je rappelle que la plupart de changements de pouvoir dans ce pays, rien ne s'est fait de manière constitutionnelle. C'est souvent par la force, c'est souvent par des voies anticonstitutionnelles. C'est donc un héritage assez dur dans ce sens. Un pays qui a connu des dictatures les plus atroces. Michel Djotodia a été présenté par certains comme étant un bon chef rebelle, mais comme n'étant pas à même de porter le costume de chef de l'État. Je vais peut-être aller beaucoup plus loin et dire que il a, à mon sens, affiché, je dirais, les attributs d'un mauvais chef rebelle. Pourquoi ? Lorsqu'on mène une rébellion de ce type et qu'on a pour objectif d'atteindre le pouvoir et donc d'influer sur la destinée d'une nation aussi importante que la Centrafrique, eh bien, l'on doit maîtriser une règle simple, c'est celle de la cohésion du groupe militaire. Et pourtant, on le sait, la CDK, c'est un foisonnement d'éléments nordistes, d'éléments centrafricains, mais aussi, il faut le reconnaître, d'éléments autres que centrafricains. Il y a des Tchadiens, des Soudanais qui ont fait partie ce groupe. Arrivé sur place, il dira cette phrase qui m'a assez interpellé. Toute solution aux problèmes centrafricains ne peut se régler que par les centrafricains. Eh bien, l'histoire la plus récente nous démontre que c'est la multilatéralité qui a finalement offert ou jeté les bases de repenser des solutions pour ce pays. D'abord, parce que les pays de la sous-région, dans un premier temps, peut-être de manière assez complice, ont laissé s'installer ce groupe de rebelles, pensant sans doute qu'il serait à même de créer les conditions d'un État centrafricain viable et de permettre à ce peuple qui a longtemps souffert de pouvoir légitimement prétendre à la paix au développement. Mais aussi parce que une fois que la catastrophe s'est installée, on l'a vu tout à l'heure, le professeur Tiembe y a fait allusion, le tandem n'a pas tenu, on a assisté à un scénario catastrophe de pré-génocide où les conditions humanitaires ont été telles que, en dehors des déplacements internes, des déplacements de population et même de réfugiés centrafricains, notre pays constitue l'un des territoires qui a accueilli plusieurs dizaines de milliers, pour ne pas parler de centaines de milliers, qui ont fui leur pays pour des raisons que l'on peut comprendre. Eh bien, devant cet état de fait, les pays de la sous-région ont compris, et sans doute avec l'appui de la communauté internationale, qu'il fallait faire quelque chose. Et là, j'aimerais relever un point. On parle souvent de solutions africaines aux problèmes africains. On se rend bien compte que ces fameuses solutions africaines aux problèmes africains dépendent d'abord de la vraie volonté politique de ces pays africains, dépendent aussi des moyens financiers, des moyens économiques de ces pays, dépendent aussi de la capacité de nos armées. Je me souviens, et je fais un clin d'œil peut-être à l'Afrique du Sud ici, je me souviens de ce drame où l'armée sud-africaine, qui est considérée comme l'une des meilleures du continent, a été quasiment tournée au ridicule à un moment donné à Bangui. Et ça pose des vraies questions. Et puis, on se rend compte que chaque fois qu'une puissance internationale, en l'occurrence la France, qui certes agit ici dans son précaré, eh bien chaque fois que ce type de puissance n'intervient pas, eh bien les solutions africaines se posent des questions.
Nous allons prendre pour vous, Samuel Monga, cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale.
Kolo Katalay, Kisangani dans la province orientale. Pour moi, cette décision de la communauté des États de l'Afrique centrale est une décision bien que salvatrice pour la République centrafricaine actuellement. Elle constitue un précédent dangereux car elle renforce le pouvoir de certains présidents dictateurs qui comptent sur leurs armées. C'est le peuple centrafricain qui a été à la fois sauvé et humilié car c'est le président Idriss Déby du Tchad qui dirigera désormais de loin ce pays. Les dirigeants de la République centrafricaine, même élus, dépendront désormais de lui.
C'est un précédent dangereux, un précédent fâcheux, Samuel Monga. Faut-il s'inquiéter par rapport à l'avenir de l'Afrique centrale notamment?
Je pense qu'il y a deux ou trois questions qui doivent se poser. Vous savez, si un pays comme la Centrafrique ne se stabilise pas, eh bien, il remplit les conditions de devenir un foyer de déstabilisation. Et cela pose un problème non seulement aux pays environnants. Je pense, par exemple, à la RDC, à d'autres pays de l'Afrique centrale, qui pourraient subir les contre-coups de ce genre de déstabilisation, mais aussi la communauté internationale, parce que ce type de foyer est évidemment intéressant pour des mouvements terroristes. On parle aujourd'hui d'une CDK hétéroclite, pacifistes, mais on parle aussi d'un phénomène de mouvement de forces négatives dans cette bande centrale est-ouest. Et on ne serait pas étonné dans un tel contexte d'entendre un jour que les Chebabs de Somalie y mettent pied, et ce serait évidemment bien dommage.
Professeur Moïla Tchiembe, est-ce qu'à votre avis, cette décision des chefs d'État d'Afrique centrale constituerait-elle un précédent dangereux, un précédent fâcheux?
Je ne sais pas s'il y a lieu de parler d'un précédent, mais au moins, pour prolonger le raisonnement de Bob tout à l'heure, il y a un parallélisme, pas de forme, mais un parallélisme tout de même, entre la volonté ou la stratégie d'avidissement des organisations internationales au profit des intérêts nationaux des États. On parlait du Tchad tout à l'heure, mais le Tchad est dans la même situation que le Rwanda. Le Rwanda, depuis la FDL, a concocté une stratégie de vassalisation de la République démocratique du Congo. C'est exactement la même chose que fait le président Déby au regard du Tchad et de la République centrafricaine. Donc la mainmise du Tchad sur la République centrafricaine, Déby, grâce à son armée et l'argent du pétrole, a fait pression sur les autres présidents et autres chefs d'État de la région pour faire en sorte que les volontés du Tchad sont devenues les volontés de la CEAC. Alors à ce moment-là, on assiste évidemment à une sorte d'instrumentalisation des organisations internationales qui, à travers les pays puissants, dictent leur volonté aux autres pays, c'est exactement ce qui est en train de se faire. Alors cette décision a été prise de révoquer carrément le tandem, parce que d'une part, la France ne voulait pas de Togia, considérant que ce monsieur ne méritait pas d'être là, et s'il fallait que les forces françaises puissent perdre au prix de leur sang la protection des populations de Centrafrique, notamment pour lutter contre ces sentiments ou cette réalité de pré-génocide, il fallait que de Togia parte. Et dans la balance, la France mettait le Premier ministre Tiangaï. Et le Tchad ne voulait pas entendre parler de Tiangaï. Si de Togia partait, il fallait que l'autre parte aussi. C'est la stratégie de Lengue que Reagan avait pratiquée à l'époque avec le président de l'époque de l'Union soviétique au regard de l'Angola. Les États-Unis demandaient le retrait de Cuba en Angola et l'Union soviétique avec Gorbatchev a exigé le départ, le retrait de l'Afrique du Sud de Namibie, et c'est dans ce ping-pong gagnant-gagnant que l'Afrique du Sud s'est retirée, les Cubains sont partis de l'Angola et l'Afrique du Sud est partie de sud-ouest africain, et les deux pays, le départ des uns de l'Angola a permis l'indépendance de la Namibie. Donc, à mon avis, il ne s'agit pas là d'un précédent, bien sûr, c'est un précédent au sens que ça s'est fait sur la place publique, mais c'est ce qui se fait régulièrement à travers les organisations internationales où il y a des pays puissants qui dictent leur volonté à ceux qui le sont moins, et dans des situations de l'absence d'État comme l'Afrique du Sud, la République centrafricaine, c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, la raison du plus fort est toujours la meilleure.
Professeur Moïla, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Yuri Machagiro depuis Goma, Nord Kivu. Je pense que c'est une énième distinction, car le même président avait tout mal de prévenir le pire, mais ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, c'est 100 ans complice les malheurs que subissent ces paisibles citoyens viennent se présenter à sa terre pompier.
Professeur Moïla, la communauté internationale a-t-elle laissé pourrir la situation en Centrafrique? Très brièvement, je vous en prie.
Oh, je ne pense pas qu'on puisse accuser la communauté internationale de... Vous savez, c'est un gros mot, la communauté internationale. Souvent, quand on en parle, c'est la peur de désigner qu'est-ce que c'est, qui est la communauté internationale. Les Nations Unies ne s'en sont pas occupées. Quelle autre organisation internationale, l'Union Européenne, ne s'en est pas occupée. Si la France n'avait pas bougé, si le Tchad, qui a le couvercle sur ce pays, n'avait pas bougé, dites-moi, la communauté internationale serait réduisait à quoi? Au pays de la CEAC, naturellement, dont on sait que la plupart ont le verbe et n'en ont pas les moyens. Regardez la misère de la force des pays de l'Afrique centrale. Bien entendu, pour la première fois, on a des soldats, mais ces soldats n'ont aucun moyen pour pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens. Eux-mêmes n'arrivent pas à manger, à boire. Ils ont des difficultés à se déplacer, même dans la ville de Bangui, sans compter l'intérieur du pays, qui est tout à fait immense. Cette misère des soldats africains, qui est affichée à Bangui, démontre le décalage entre la volonté des pays africains à se frapper la poitrine et à envoyer les forces, qui sont dans un état de misère épouvantable.
Merci, professeur Mouaïla. Professeur Bob Kabamba, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kindu au Maniema.
Commandant Mutayo de Kindu, province du Maniema. La démission du président et du premier ministre centrafricain est une leçon aux autres dirigeants africains qui s'accrochent au pouvoir même si les choses ne vont pas dans leur pays respectif.
Professeur, là on est déjà dans les leçons. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon par rapport aux autres pays africains?
Ben, je ne pense pas que ce soit vraiment une leçon pour les autres pays africains par rapport à ce qui se passe. Il suffit de regarder l'histoire de la région pour se rendre compte que par exemple les meurtres des présidents, les assassinats des présidents, ou les coups d'État, ou les rébellions n'ont pas donné de leçons aux uns et aux autres, et pourtant c'est un cycle qui se renouvelle chaque fois. Mais je voudrais quand même réinsister un petit peu, si vous permettez, par rapport aussi ce qu'on pourrait appeler les leçons. Je pense que la suite est assez prévisible par rapport à ce qui se prépare. Il suffit de voir ce qui s'est passé en RDC, et vous n'avez qu'à le coller par rapport à ce qui est en train de se passer en Centrafrique, et vous allez avoir la même lecture. C'est-à-dire que nous aurons bientôt une résolution du Conseil de sécurité qui va placer officiellement donc la Centrafrique sous tutelle, comme on a eu avec la RDC, avec la résolution 1565, mais si on aura une nouvelle résolution, et cette nouvelle résolution va avoir trois options. Une première option qui va être l'option sécuritaire, avec comme objectif désarmement, réinsertion des anciens combattants et la mise sous pied d'une nouvelle armée. Ensuite, il y aura une deuxième option qui sera l'option politique qui va essayer de réfléchir, de consolider autant que se peut le fonctionnement des différentes institutions et qui va s'occuper de la réconciliation, suivi des droits de l'homme, etc. Et enfin, on aura la question des élections pour pouvoir faire désigner les différents dirigeants qui seront censés mener la RCA vers un état de droit, ce que je doute fort du fait que les moyens qui seront mis en place pour cette deuxième résolution, c'est ce que de faire défaut du fait que la plupart des bailleurs de fonds internationaux sont déjà fort mobilisés ailleurs. Ils sont mobilisés à RDC avec la nouvelle brigade internationale qui coûte assez cher à la communauté internationale. Quand je dis la communauté internationale ici, c'est essentiellement les États-Unis qui payent 25% du budget de cette force et d'autres pays comme la France qui ne va certainement pas mettre la main à la poche après avoir déjà déployé autant de militaires. Et les pays du Nord, qui sont généralement les grands acteurs, sont déjà fort mobilisés sur les questions au Moyen-Orient. Et donc ici, malheureusement, on pourrait facilement penser que la Centrafrique va rester dans cet état de non-droit, avec des groupes rebelles qui vont rester actifs, et avec le désavantage qu'il va avoir des connexions régionales, et qui va faire que ce conflit va se régionaliser d'une part vers le Sud-Soudan, avec l'implication qu'il y a déjà maintenant avec la guerre civile, d'autre part vers l'Ouganda, avec la LRA, ça serait tout à fait clair, et malheureusement aussi avec la RDC, avec le nord de l'Équateur, etc., qui va certainement être touché. Professeur. Et nous aurons un phénomène que l'on a déjà connu dans la région, qui va être une espèce de régionalisation du conflit centrafricain qui va déborder sur les autres pays de la région, sans avoir les moyens de pouvoir y mettre fin.
Professeur, je vous demande juste une très brève réaction. Le professeur Mouaïla a tout à l'heure dit au niveau de la région, la volonté du Tchad se confondait à celle de la CEAC. Par là, ne peut-on voir que le président Déby est en train de confirmer son leadership au niveau de la sous-région?
Le président Déby a, de fait, le pouvoir au niveau de la CEAC. Du fait, le pouvoir en Afrique, de manière générale, se construit sur deux pôles. Le pôle sécuritaire, le président Déby a l'une des meilleures armées en Afrique. On a déjà ils l'ont démontré au Mali et ils sont en train de le démontrer en Centrafrique. La capacité de déploiement, etc. Et tout ça, l'armement, la mobilité, etc. Et le nombre de militaires. Deuxièmement, c'est les aspects financiers et les aspects de ressources. Et là, le président Déby a les ressources du fait que le Tchad est un pays producteur de pétrole et aussi, non seulement producteur, mais aussi exportateur avec le pipeline Tchad-Cameroun. Et en ces deux éléments-là, il est plus facile pour le président Idriss Déby de pouvoir mettre ça sur la table et de demander aux autres présidents de suivre ce qu'ils ont fait.
Merci, professeur Bob Kabamba. Samuel Monga, le professeur, professeur Bob Kabamba émet déjà des craintes par rapport à la régionalisation du conflit centrafricain. Quelle est votre réaction?
Écoutez, au-delà de cette question qui me paraît tout à fait évidente, je voudrais relever, pour ne pas trop retourner en arrière dans ce débat, mais relever deux ou trois points. À mon avis, se pose aussi un problème assez important lié au fameux CNT. Vous savez qu'il s'agit d'une structure où les personnes...
Le Conseil national de transition.
Exactement. Une structure où les membres n'ont pas été élus. C'est une structure qui est le fruit d'un compromis. Il se pose assez naturellement toute la problématique de la légitimité de cette structure. J'espère qu'elle aura cette force et qu'elle sera assortie d'une mission fédératrice suffisamment forte pour pouvoir taire les dissensions. Deuxièmement, je pense aussi que la Centrafrique a besoin d'un vrai modèle de reconstruction post-conflit. Et en ce sens, pourquoi ne pas se référer à ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, où nous avons connu, il faut le reconnaître, à un moment donné, une déflagration de l'État, mais où nous avons aussi connu, grâce certes à l'appui de la communauté internationale, mais aussi par le truchement de règlements de certaines problématiques clés, eh bien on a connu des vraies solutions. Je pense qu'il était important que la réconciliation nationale soit au cœur de cette nouvelle Centrafrique. C'est bien dommage parce que ce pays a souvent été, on parlait souvent d'un pays, le seul pays africain qui a quasiment une seule langue nationale, le Sango. Mais on s'est rendu compte que derrière cette façade unitaire, il y a des fragmentations. J'espère aussi qu'il y aura un bon processus DDR. C'est important, cette problématique de réinsertion, de démobilisation. Et puis la question du retour à l'ordre démocratique. On parle de la tenue d'élections au plus vite possible pour avoir un président, mais dans quelles conditions et dans quelle Centrafrique? Celle qui présente ce visage-là aujourd'hui, évidemment, suscite pas mal de questions.
Mais le professeur Bob Kabamba, en parlant du modèle congolais, a quand même évoqué le fait que la communauté internationale est déjà très engagée ailleurs et ne pourrait pas avoir les mêmes moyens à disponibiliser pour la RCA.
Ce qui m'impressionne, c'est que un pays comme la RDC, a priori qui a d'autres chats fouettés, je pense par exemple à l'Est, a compris les enjeux du moment. En intégrant ces hommes, je parle ici des militaires, dans la force, pouvant contribuer à la remise sur pied de ce pays. Stratégiquement, il est important pour les pays qui entourent la Centrafrique, de veiller à ce que les choses s'arrangent à Bangui. Je vois mal les pays de l'Afrique centrale laisser la situation pourrir davantage. Je ne crois pas en une régionalisation. Pourquoi? Parce que la communauté internationale, qui est certes éclectique, qui est certes, on a parfois l'impression que c'est plus une société internationale, mais enfin, cette communauté internationale a des enjeux prioritaires. On sait aujourd'hui que la lutte contre le terrorisme, c'est la priorité des priorités. Et le terrorisme a pour foyer favori les terrains de forte déstabilisation. Je ne crois pas un seul instant que la situation de la Centrafrique va perdurer au point de déstabiliser toute la région.
Quelques réactions des auditeurs. Pascal Falcao Matiaba, ces deux démissions sont salutaires pour la RCA, mais la façon dont elles sont arrivées montre que l'Afrique n'est pas totalement indépendante. C'est François Hollande qui a tout dicté. Idriss Déby n'est qu'une marionnette. Christian Sieboadiagoya, ils ont montré l'exemple des dirigeants incapables qui ont une bonne lecture des événements. En plus, cette décision prise en dehors du pays prouve que l'Afrique est toujours gérée à distance. Steve Kabangu de Lubumbashi au Katanga, la décision prise par les chefs d'État est bonne, mais il faut que les dirigeants africains sachent quitter les choses avant que les choses ne les quittent, pas attendre que des hommes meurent d'abord, car ce n'est pas sérieux. Samuel Monga, très brièvement, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer.
Mais, écoutez, l'auteur de l'ouvrage L'Art de la Guerre, le stratège Sun Tzu chinois, a dit ceci: celui qui amène les conditions de la guerre amène aussi les conditions de la paix. Assez fataliste, mais peut-être assez clair pour mettre en évidence le rôle que joue et que jouera l'ombre d'Idriss Déby sur ce pays, la Centrafrique. Aujourd'hui, Idriss Déby n'est peut-être pas le modèle ou le porte-étendard de la réussite démocratique, mais dans le jeu des alliances régionales, dans le jeu des intérêts internationaux, je pense par exemple à la situation de la bande sahélienne, eh bien Idriss Déby trouve une place importante et son rôle s'est démontré, notamment lors du récent sommet.
Professeur Moïla Kiembe, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer cette émission. Avant votre conclusion, une brève réaction. Professeur Samuel Monga pense que la régionalisation du conflit centrafricain n'est pas possible, et puis vous allez conclure aussi.
Ben, je pense que notre ami parle de certains faits, mais puisqu'il parle de l'avenir sur laquelle nous n'avons pas d'emprise, on verra si sa projection permet de dire demain si cette crise va se régionaliser ou non. Mais pour terminer notre émission, je voudrais insister sur l'élément de ce que j'ai appelé ou ce qu'on appelle le dilemme des sécurités. Voilà, les pays africains, fleurs au fusil, ont considéré que les organisations régionales qu'ils avaient créées pour le but de développement économique, soudainement, les pays africains ont fait basculer les buts de ces organisations à vocation économique et régionale vers les questions sécuritaires. Or, le postulat selon lequel l'intégration économique aboutirait au développement n'est pas encore démontré. Et voilà qu'on y ajoute un autre inconnu. Développement économique veut dire sécurité. Résultat, on a 3 variables qui sont en mobilité. L'intégration économique n'est pas encore arrivée, mais on attend d'elle que se dégage le développement. Le développement n'est pas encore là. On pense que ça, on peut assurer la sécurité régionale. Et c'est ce dilemme de sécurité, effectivement, qui se joue en Centrafrique, comme elle se joue au Congo ou ailleurs. Et le résultat, c'est que ce sont les puissances, la France, probablement demain l'Union africaine, mais l'Union africaine, vous avez vu, les forces mobilisées n'ont pas les moyens. Si les États-Unis, comme Bob l'a rappelé tout à l'heure, a quitté le groupe des opérations de maintien de la paix et sont pris ailleurs, il est à craindre probablement que cet échec sur la problématique de sécurité mené par les organisations régionales ne puisse vraiment ruiner toute la confiance des États dans la problématique d'intégration régionale.
Merci,
qui avait d'autres objectifs que les objectifs de sécurité.
Merci professeur Moïla Chiembe. Professeur Bob Kabamba, quelle est votre conclusion? Quel pourrait être, comment envisager l'avenir de la RCA et de l'Afrique centrale dans les prochains jours?
Malheureusement, je ne peux qu'affirmer et confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure, que faute d'une forte pression au niveau international, on va arriver à une détérioration de la situation sécuritaire en RCA. Et la régionalisation, elle est déjà là, parce qu'il y a déjà les Danjawites soudanais qui sont très présents en Centrafrique. Vous avez des mercenaires tchadiens qui sont engagés aussi sur le terrain de guerre en Centrafrique. Et ça, ce sont des signes clairs de ce qu'on appelle une régionalisation lorsque vous avez des groupes étrangers qui s'immiscent dans des pays limitrophes. Les pays dont sont originaires ces groupes étrangers ne peuvent pas laisser faire et donc seront amenés à intervenir d'une façon ou d'une autre. Et donc malheureusement, faute des moyens, faute de pression politique suffisante et militaire venant de traditionnelles communautés internationales, c'est-à-dire les États-Unis et les autres grands pays occidentaux, nous arriverons à avoir une situation instable en RCA.
Merci,
qui pourrait
professeur.
Influencer la situation sécuritaire dans les autres pays.
Merci professeur Samuel Monga. Conclusion, professeur Bob Kabamba tient et pense d'ailleurs qu'on est déjà dans une régionalisation de fait.
Mais écoutez, je veux me souvenir de l'histoire. Il y a quelques années, la RDC passait par une période tumultueuse et trouble. Elle a eu la chance, je pense, à un moment donné, d'avoir un leadership consensuel, un leadership de convergence. Je me souviens particulièrement au moment de la transition. On a eu le leadership du président de la République qui a joué. Et mon souhait le plus important, c'est qu'en Centrafrique, il puisse aussi bénéficier d'un tel leader fédérateur dans des moments aussi délicats de l'histoire d'une nation. Et je reste convaincu que ce qui s'est passé en RDC qui a porté ses fruits, un pays beaucoup plus grand que la Centrafrique, réussira probablement là-bas aussi.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Vous pouvez retrouver cette émission sur radiocapi.net. Bonne suite au programme sur la Radio de la Paix. Au revoir.